J'aimerais parler sur les déserts de David, dans 1 Samuel 22, verset 1. David partit de là et il se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitspé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Il nous arrive à tous de passer par des moments compliqués dans l'existence avec des contretemps, des situations qui ne se débloquent pas, des impossibilités qui sont là. Et dans ces circonstances défavorables, bien, nous avons dans la parole de nombreux conseils qui nous montrent comment tenir bon dans les vents contraires. Et c'est parfois difficile d'avancer quand le vent vient dans le sens contraire. Et David a connu ces situations où il n'était pas dans des situations favorables. Bien sûr, il a eu des moments où il était poussé dans la facilité, dans les choses s'ouvraient devant lui. Il a connu des grandes bénédictions, notamment la cour du roi, notamment la victoire contre le géant Goliath. Il a été oint pour être roi, les femmes chantaient en son honneur, il avait beaucoup de victoires contre les Philistins. Mais le roi s'est retourné contre lui et là, il vit dans la fuite. Saül le pourchasse, il veut le tuer. C'est un vent contraire, ce sont des vents contraires. Et cette période de désert, donc nous allons méditer sur les déserts par lesquels David est passé, ça prend quelques chapitres dans la parole de Dieu, mais en réalité, dans la vie de David, ça a compté pour 13 années de sa vie. Pendant 13 ans, il a dû fuir, se cacher, errer, trouver des endroits pour se protéger. 13 ans dans une vie, c'est pas rien. Entre le temps où il a été oint et le temps où il a régné, il s'est passé 13 années. Les déserts, c'est une période d'apprentissage. On doit apprendre dans les déserts. On doit apprendre beaucoup de choses. On doit apprendre sur Dieu. On doit apprendre à méditer. On doit apprendre à prier davantage, à être davantage à l'écoute de Dieu, à déposer nos cœurs devant le Seigneur. Les déserts, ce n'est jamais inutile. Les déserts, c'est des passages que Dieu permet pour nous apprendre de nouvelles choses. Et en réalité, quand on étudie les déserts par lesquels David est passé, on voit que Dieu n'a jamais abandonné David malgré les nombreux déserts dans lesquels il s'est retrouvé. Mais la traversée du désert, humainement parlant, on pense que Dieu nous a abandonnés. Nous allons voir que non. À chaque désert, en fait, David a eu les ressources nécessaires pour traverser son désert. Et à chaque fois, à nouveau, Dieu permettait un nouveau désert, mais à chaque fois, des sources nouvelles venaient le combler. Ici, c'est un premier désert dans la caverne d'Adullam. David vit en fugitif et Dieu lui permet de trouver un lieu de repos. Vous voyez, il y a des fois des pauses que Dieu permet dans notre vie. Par exemple, ici, il a le soutien de sa famille. Ses parents, ses frères vont venir le soutenir. Les choses ne sont pas toujours bien passées avec ses frères et ses parents parce que son père ne l'avait pas invité le jour où Samuel est venu. Son père l'avait mis de côté. Son frère Eliab le traitait d'orgueilleux et le méprisait. Il n'avait pas compris que David était le choix de Dieu. Mais aujourd'hui, le texte dit que, au verset 1, que ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. David est donc en difficulté en réalité. Il est pourchassé par Saül. C'est donc une personne qu'il ne faut pas fréquenter si vous voulez être bien avec le roi. Mais sa famille, qui dans un premier temps avait rejeté David, alors que là, David est en grande difficulté, elle vient le soutenir. Et c'est vrai que on peut connaître des temps où on est rejeté de notre famille parce que on est chrétien et ça a mal passé dans le témoignage au niveau des parents, par exemple. Mais Dieu peut permettre que la famille revienne. Il peut incliner les cœurs. Voyez Proverbe 21:1, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc prions pour nos parents, pour nos familles, pour les enfants, pour les couples, afin que, il y ait la paix et qu'il y ait des familles qui soient restaurées. Cette famille de David avait besoin de se ressouder. C'était une famille éclatée, c'était une famille divisée. Ils avaient besoin d'être ressoudés. Et en fait, c'est dans le désert de David que cette réconciliation a eu lieu. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un, votre famille est éclatée, votre famille est divisée. Dieu peut permettre une réconciliation. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Dieu a changé le cœur de ses frères. Dieu peut changer le cœur de nos frères ou de nos parents pour les ramener vers les enfants. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. C'est une prophétie. Et puis, c'est dans ce désert, premier désert caché dans la caverne, c'est là que David va constituer son premier groupe. Ce groupe qui va l'accompagner pour remporter de grandes victoires par la suite. C'est un groupe assez hétérogène, il y a un peu de tout. Voyez au verset 2, voilà les gens qui suivaient David, ceux qui étaient dans la détresse, ceux qui avaient des créanciers, donc ils devaient de l'argent, ils n'arrivaient pas à rembourser. Plutôt que de rembourser, ils ont préféré fuir et suivre David. Ceux qui étaient mécontents, là aussi, il y avait quand même des gens qui n'étaient pas faciles. Tous, ils se rassemblèrent auprès de lui et David devint leur chef. Et on se rend compte qu'il se retrouve avec environ 400 hommes à gérer. Ça veut dire que de ce groupe un peu chaotique, dispersé, il venait pour des intérêts multiples. Quand il est dit que David devint leur chef, ça veut dire qu'il a réussi à les mobiliser dans une vision, dans une œuvre, à faire quelque chose. Parce que, en fait, ces hommes entre eux, ils se seraient déchirés, ils se seraient détruits les uns les autres. Mais David a réussi à les orienter dans la bonne direction pour être utile. Ça, c'est remarquable. Et si vous lisez la suite, en fait, c'est de ces 400 hommes-là que vous allez trouver les vaillants hommes de David, qui vont être des soldats, audacieux, dont par exemple Joab. Joab, il faisait partie de ces premiers-là qui ont suivi David et qu'il est devenu plus tard le chef de l'armée de David. Mais ils étaient là. Certains auraient dit on ne pourrait rien faire avec des éléments comme ça. Puis David a su, avec la grâce de Dieu, comment les mettre au service. David a développé des qualités de leader alors qu'il était dans un contexte défavorable, alors qu'il était rejeté pour chasser. Il est devenu le chef de ces 400 hommes, et c'est au contact de David que ces hommes ont changé et qu'ils sont devenus utiles pour Dieu. Pourquoi ? Parce que David était un modèle. Et Paul, dans l'Église, il nous demande d'être des modèles pour les autres, afin qu'ils progressent. 1 Timothée 4:12, Paul dit à Timothée « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Voilà le modèle qu'il nous faut. Il nous faut suivre. Et David était comme un modèle pour ces 400 hommes qui étaient méchants, qui avaient des créanciers, se trouvaient dans la détresse. Ils ont vu en David un homme fidèle qui avait la foi, qui marchait avec Dieu, et ça les a inspirés pour s'approcher de Dieu. Et puis, je remarque encore que David, dans son désert, il prend soin de sa famille. Bien que David lui-même est en grande difficulté, il prend soin des autres. et il voit que ses parents, ils vont subir des représailles du roi, parce que comme ils sont venus vers David, ils vont subir des représailles. Alors, il dit, mes parents, je vais les protéger. Et c'est pour ça qu'il a dit au roi, au verset 3, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il voulait les protéger pour pas qu'ils se retrouvent sous la main de Saül. Ce qui est intéressant, c'est que lui-même donc, était en difficulté pour sa propre vie, mais quand même, il pense aux autres. Et ça aussi, ça préfigure ce que nous devons, dans l'Église, avoir comme pensée, c'est prendre soin les uns des autres. 1 Timothée chapitre 5, verset 8, il y a une parole de Paul qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi ». Et il est pire qu'un infidèle. La famille, c'est important. La famille, elle doit être protégée. Et même si on passe par un désert, eh bien, nous devons prendre soin de nos conjoints, de nos enfants, de nos parents, de la famille. Parce que si nous ne le faisons pas, ben, nous sommes pire qu'un infidèle. Nous donnons un mauvais témoignage. Et nous ne sommes pas selon le cœur de Dieu. Donc David, voyez, premier désert, déjà beaucoup de leçons. Il apprend dans son désert, il fait confiance à Dieu, il devient chef, et puis il est un modèle pour les autres, et il prend soin des plus faibles. Deuxième exemple, un autre désert, un peu plus loin, au chapitre 23, donc, 1 Samuel chapitre 23, et au verset 13. Le désert de Ziph. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et dit « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi, je serai au second rang après toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Et ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. David, donc, dans une de ses échappatoires, avait trouvé provisoirement un refuge dans la ville de Keïla. Mais Saül a appris qu'il était là, il arrive avec son armée et il doit fuir pour sauver sa vie. Remarquez qu'il est passé à 600 hommes. De 400 tout à l'heure, maintenant il y a 600 hommes, donc il y a une progression dans les personnes qui suivent David. Malgré qu'il est fugitif, malgré qu'il est dans les déserts, malgré qu'il doit se cacher, déjà, des gens suivent David. Donc, il y avait quand même la main de Dieu avec lui pour que des gens le suivent. Mais il doit encore s'échapper puisque Saül arrive. Il va où il peut. Il trouve des cavernes dans les déserts. Il se cache pour sauver sa vie, des fois dans les montagnes. C'est intéressant quand vous lisez les psaumes de savoir dans quel contexte, en fait, ils ont été écrits. Et en fait, c'est dans ce désert-là, donc très défavorable pour David, qu'il a composé le psaume 54. C'est intéressant de le regarder. Alors, on va faire un petit saut dans le psaume 54. Donc, on est dans le contexte du désert de Ziph. Même dans ces déserts, David gardait la communion avec Dieu et composait des psaumes. Et nous les lisons encore aujourd'hui. Et ils font du bien à notre âme. Psaume 54, au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à David, « David n'est-il pas parmi nous ?»« Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. » Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Vous voyez ces beaux psaumes qui indiquent quand même un esprit de louange, de reconnaissance, d'adoration, de foi, ont été écrits dans des moments de fuite, on peut dire où il était désavantagé, où il craignait pour sa vie parce qu'il était pourchassé par Saül, mais il met en avant Dieu comme le secours. Le secours nous vient de Dieu et pour nous c'est pareil. On peut être acculé de toutes parts, mais voici, on peut dire au verset 6, « Dieu est mon secours, il est le soutien de mon âme. » Il vraiment tourne son regard vers Dieu et il dit « Dieu est favorable. » En apparence, ce n'est pas favorable, mais il sait que spirituellement, Dieu est favorable. Et il le maintient et il le proclame. Donc tout ça, c'est intéressant. Ça nous montre comment, dans ces déserts-là, bien, nous pouvons entretenir la foi, la vision, la piété, ne pas regarder au désert en lui-même, mais regarder vers Dieu qui nous soutient dans le désert. Et il considère que son véritable secours est en Dieu. Il sait très bien qu'avec ses 600 hommes, il n'a pas le pouvoir de vaincre Saül avec son armée puissante, des milliers de soldats. Mais néanmoins, ça ne l'empêche pas de louer le Seigneur quand même et de garder confiance en Dieu. Ça veut dire que pour nous, on peut être dans le désert, tout est sombre, tout est bloqué, mais garder confiance en notre Dieu qui est tout-puissant. Trouver un sujet de reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses. Pas seulement quand tout va bien, mais en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est comme si David, il avait saisi cette parole qui n'était pas encore écrite de Paul, mais il arrivait à rendre grâce dans ses déserts. Et regardez le verset 14. Dieu ne permettait pas que Saül rattrape David. David demeura au désert, donc on est 1 Samuel 23, 14. David demeura dans le désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Il y avait la main de Dieu sur David. Et en fait, notre vie, elle n'est pas entre les mains du monde, de ce monde. Nous ne dépendons pas des circonstances de ce monde. Nous sommes entre les mains de Dieu. Et Dieu ne permettait pas que David soit livré entre les mains de Saül. Voyez, Paul le dit d'une autre manière. Il dit, 2 Corinthiens 4, 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Même si on est atteint par la maladie, notre vie, elle n'est pas entre les mains du médecin, elle est entre les mains de Dieu, toujours. Parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence au médecin, c'est Dieu qui va guider la main du chirurgien, mais notre vie est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Et la visite de Jonathan, ici, dans les versets 15 et suivants, eh bien, va être comme un baume sur le cœur de David qui est meurtri. Jonathan, c'est son ami. Jonathan, il a pris un risque. Vous savez, c'est le fils du roi, roi Saül. Il n'a pas le droit d'aller voir David. Il y va quand même. Il a pris position pour David contre son père. Ce n'est pas facile comme situation. Parce que Jonathan, il aime son père et il veut honorer son père. Et en même temps, il sait que David est loin de Dieu. Eh bien, il préfère suivre le spirituel, c'est-à-dire être fidèle à David et contrer le charnel, Saül, dont il sait, il le dit d'ailleurs à David, que son père ne règnera plus longtemps. Il le sait. Il sait. Et pourquoi il le sait? Parce qu'il est en communion avec l'esprit, le spirituel. Si Jonathan avait été en communion avec son père qui est charnel, il n'aurait pas fait cette démarche. Il serait resté au palais, il aurait pourchassé aussi David. Vous voyez, quand vous aimez le Seigneur et que vous prenez des positions, vous serez amené à avoir des conflits spirituels, parce que si vous prenez position pour David, vous serez en conflit avec Saül. Et c'est ce qui s'est passé pour Jonathan. Son père n'a jamais accepté. Quelquefois, nous sommes confrontés à des choix difficiles, mais retenez que cette visite a fortifié le cœur de David, et quelquefois la visite d'un frère, d'une sœur, un chrétien, alors qu'on est là dans un désert, ça va être comme un baume sur le cœur. Acte 28.15, Paul l'a vécu lorsqu'il dit « De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et il prit courage. » Il y a des frères comme ça, des sœurs, qui vont être des sources de courage, d'encouragement. Et quand vous les voyez, vous reprenez courage. Eh bien, Jonathan, ça a été pour David comme un frère qui lui a permis de reprendre courage. Eh bien, soyons aussi comme ces Jonathan, comme ces frères-là qui ont entouré Saül, et il a repris courage. Je passe à un troisième désert, 1 Samuel 23, verset 25. C'est le désert de Maon. Saül a pris une partie avec ses gens à la recherche de David et on informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appela ce lieu du nom de Sela Amaklekot. Et donc, un nouveau désert. David était toujours pourchassé par le même Saül, qui déploie tous ses efforts. Et en fait, là, on est à un point où il peut gagner. Saül peut gagner. Il encercle David et ses soldats. Ils sont plus nombreux. Et vraiment, c'est le point final. Et vraiment, il était à deux doigts d'être détruit. Vous voyez, quelquefois, on est vraiment au bord du précipice. C'est la dernière limite. Et là, vraiment, quand tout semble mal tourner, c'est encore Dieu qui va débloquer la situation. Il fait venir un messager à Saül en disant « Vite, retourne au pays, en Israël. Des ennemis ont envahi le pays, il faut y aller. » Cet imprévu, en fait, qui était prévu de Dieu, préparé par Dieu, a été une porte de sortie pour David. Et parfois, effectivement, Dieu agit au dernier moment. Et on voit ici que Dieu a le contrôle de tout, qu'il n'a pas permis que David soit pris par Saül. Donc le sort de David était vraiment entre les mains du Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel, dit la parole. Psaume 118, 6, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Saül, son armée ne pouvait rien contre David. Et notre vie, c'est pareil, elle appartient à Dieu. Il détermine le début et la fin. Il y a un plan. Alors pour David, le plan, c'était qu'il soit roi. Pour nous, Dieu a un plan. Alors c'est un autre plan. Chacun a un plan différent. Dieu a un plan pour chacun. Mais Saül voulait empêcher David de devenir roi. Il n'a jamais réussi. Il n'a jamais pu. Parce que le plan de Dieu, c'était que David allait devenir roi. Et Dieu accomplit son plan. Saül, avec son armée, ne peut pas empêcher cela. Mais en réalité, pour l'instant, ce qu'il vit, c'est le contraire du plan de Dieu. Puisque Dieu l'a appelé à régner, il doit fuir. Et ce n'est pas toujours à vivre le contraire de ce que Dieu nous dit. Peut-être quelqu'un ce soir vit le contraire des promesses de Dieu. C'est déstabilisant. Mais ça n'empêche pas que ces promesses demeurent et qu'elles se réaliseront en son temps. Sauf qu'il faut persévérer dans le désert. Ici, c'est le désert de Mahon, le désert de la persévérance, le désert de l'incompréhension et peut-être le désert où Dieu intervient au dernier moment alors que tout semble perdu. Et j'ai pensé à un dernier désert, c'est celui de En-Gedi au chapitre 24, 1 Samuel 24 et au verset 1. Un autre désert, ici En-Gedi. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main contre lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. On voit que Saül donc est déterminé à perdre David. Il sera d'ailleurs l'ennemi de David jusqu'à sa mort. Il n'y a jamais eu de paix entre David et Saül quand Saül est devenu fou. Ce n'était pas la faute de David, mais il y avait un mauvais esprit qui agitait Saül et le poussait à vouloir tuer David. Et il l'a poursuivi sans relâche, mais ne l'a jamais atteint. Mais, paradoxalement, Dieu a livré Saül entre les mains de David à deux reprises. C'est-à-dire qu'à deux reprises, clairement, David aurait pu tuer Saül, s'il avait cédé à la chair, on va dire, ou à la pression du groupe, parce que les 600 hommes de David, eux, voulaient tuer Saül. Mais il a résisté. Les hommes de... Ici, c'est donc la première fois où Dieu livre Saül entre les mains de David. En plus, il a les 400 hommes derrière lui qui lui disent « Vas-y, c'est le moment, tue-le. Dieu te l'a livré entre les mains. » Pour eux, c'était comme une bénédiction. Et c'est là où on voit que David, il illustre vraiment la grâce dans l'Ancien Testament. Parce que la vengeance, c'est naturel. Quelqu'un vous a fait du mal, vous lui rendez du mal. Saül lui fait du mal, mais il va lui faire du bien. Il va lui faire grâce. Et ça, ce n'est pas naturel. On voit qu'il a une telle communion avec Dieu qu'il exprime la grâce de Dieu. Il ne voulait pas la mort de Saül. Il voulait que Saül change d'attitude, il voulait une repentance. Saül était loin de l'Éternel. Donc pour David, loin de l'Éternel, c'était Saül, et c'était Dieu qui allait régler la situation de Saül, pas David. Donc soit il allait mourir de mort naturelle, soit il allait mourir au combat, mais ça, ça appartenait pas à David, en tout cas, c'est pas lui qui allait mettre la main sur loin de l'Éternel. Donc il avait un tel respect pour les choses de Dieu. Il voulait laisser Dieu s'occuper de Saül. Mais Saül est resté égoïste jusqu'au bout. Il n'a pas compris du tout que Dieu avait un plan différent. Et puis la deuxième fois, c'était dans une autre localité, dans un autre désert, en pleine nuit. Le camp de Saül dormait paisiblement et David est allé faire une excursion dans ce camp avec Abishaï. Et là encore, comme il était à côté de Saül qui dormait, il aurait pu le tuer encore une fois. Et Abishaï le poussait à tuer Saül encore une fois. Il a résisté. Et c'était la deuxième fois où Dieu livrait Saül entre ses mains. Il aurait pu le tuer. Et deux fois, David a fait grâce. En conclusion, David est ensuite aller vivre carrément chez les Philistins pour être tranquille, parce qu'il savait que s'il allait chez les Philistins, Saül arrêterait de le poursuivre, c'est ce qui s'est passé. David s'est mis au service des Philistins pendant tout un temps, il allait combattre pour les Philistins. Et malgré toutes ces difficultés, ben Dieu ne l'a pas abandonné. Alors on peut connaître des déserts nous aussi, comme David, j'ai mentionné 4 déserts. Mais rappelez-vous toujours que le Seigneur n'a jamais abandonné David dans ses différents déserts. À chaque fois, il a pourvu d'une manière ou d'une autre. Différente, pas toujours la même chose. Mais le désert, ce n'est pas du temps perdu. Ça a duré longtemps. David a appris à devenir chef. Il a appris à dépendre de Dieu. Il a appris à faire confiance au Seigneur quand les choses semblent perdues, hein, quand il était entouré là. Bien, l'intervention au dernier moment. Et puis, il a suscité parmi ces 600 hommes toute son armée qui va être là avec Joab, Abishai, Azaël, les vaillants hommes de David qui vont être des héros. Pourquoi ? Parce qu'il a été un modèle. Alors, toutes ces périodes de désert que nous traversons, vous voyez, ce sont des temps que Dieu permet pour faire sortir de nous des choses qui ne sortent pas naturellement, mais qui sortent comme ça dans les déserts et qui permet que nous avancions. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole. Merci parce que tu soutiens nos cœurs, tu nous soutiens dans les vallées, dans les montagnes, dans les déserts, tu es là, ta main est avec nous, ta grâce nous accompagne. Merci pour toutes les leçons que nous pouvons encore tirer de la vie de David à travers ces différents déserts. Et ta main qui ne nous abandonne pas, ton secours qui vient nous rechercher, même jusqu'au dernier moment, Seigneur, tu te glorifies et ton plan s'accomplit parce que c'est ta volonté. Et nous prions pour chacun, pour chaque situation, afin que tu encourages un frère, une sœur, que nous puissions être comme ces Jonathan qui allaient encourager David, être de ceux qui, comme Paul, a pu bénéficier de l'encouragement de ces chrétiens de Rome qui venaient à sa rencontre et il fut fortifié. Eh bien, nous voulons être aussi de ces chrétiens qui s'encouragent les uns les autres et qui sont des sources d'encouragement et de bénédiction. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire pour ta fidélité dans les déserts, pour ta patience, pour ton amour à notre égard et tout ce que tu veux nous enseigner, nous apprendre. C'est dans le nom de Jésus que nous te rendons gloire. Amen.